Jean-Bernard Leroy, voici donc mon exposé du mois de juillet. Je parlerai aujourd'hui des saints d'Amérique. L'arrivée sur le continent américain des Espagnols, des Portugais et des Français fut toujours accompagnée de celle des missionnaires. Un des plus célèbres fut Bartolomé de las Casas de 1474 à 1566, qui défendit les Indiens de la voracité des marchands qui voulaient les réduire en esclavage en proclamant le Saint Bartholomé proclama leur dignité d'homme, créature habitant une âme à l'image de Dieu. Il alla à Madrid pour l'affirmer au roi d'Espagne. Je vous propose de vous arrêter sur quatre saints indiens, on dit maintenant amérindiens, des deux premiers siècles de la présence européenne en Amérique. Contrairement à ce que prétendent plusieurs esprits mal informés, la colonisation européenne était loin de n'avoir en vue que des impératifs commerciaux. Des missionnaires accompagnaient les explorateurs, plus soucieux de connaissances que de commerce. On l'a constaté avec le Canada français. Bien avant le commerce triangulaire, Louis XIV envoyait dans la Nouvelle-France des filles du roi pour en améliorer le peuplement et la naissance d'un peuple, pour en améliorer le peuplement et favoriser la naissance d'un peuple homogène. La première figure date du XVIIe siècle, les trois autres du XVIe siècle. Elle vécut au Canada, la première figure. Il s'agit de l'Iroquoise Kateri Tekatwita, une des premières saintes amérindiennes. Elle connut la persécution, même si elle ne mourut pas en martyr. Née en 1656, devenue orpheline, elle fut baptisée à 20 ans. Elle refusa le mariage qu'on voulait lui imposer et trouva refuge dans une mission dans le Saint-Laurent. Elle fonda une petite communauté d'Indiens chrétiens, fit vœu de chasteté et mourut à 24 ans. Elle a été canonisée en 2012 par Benoît XVI avec ces mots: dans une voie tout ordinaire, Kateri resta fidèle à l'amour de Jésus, à la prière et à l'Eucharistie quotidienne. Son but était de connaître et de faire ce qui est agréable à Dieu. Kateri nous impressionne par l'action de la grâce dans sa vie en l'absence de soutiens extérieurs et par son courage dans sa vocation si particulière dans sa culture. On peut penser que c'est à elle que pensait Dvorak dans le deuxième mouvement de sa symphonie du Nouveau Monde, bien que cette symphonie ne soit pas une œuvre religieuse. En tout cas, ses funérailles sont célébrées dans cette symphonie du Nouveau Monde. On ne peut s'empêcher d'y penser. La deuxième figure est Sainte Rose de Lima, 1586-1617. Ce fut la première sainte amérindienne. Elle naquit à Lima, au Pérou, le 20 avril 1586. Elle fut baptisée sous le nom d'Isabelle, mais elle était si jolie qu'on la surnomma Rose. Elle reçut une éducation très soignée, on dit même que, encore très jeune, elle écrivit un poème, des poèmes en prose. Je répète qu'elle est amérindienne, née à Lima, et qu'il s'agit au XVIe siècle, où même tous les Européens n'écrivaient pas. Comme quoi on éduquait les filles des Amérindiens parfaitement bien. À 1606, à 20 ans, elle entra chez les Dominicaines, où elle tint à pratiquer une vertu austère avec des jeûnes fréquents et même des flagellations. C'était essentiellement une mystique, invoquant sans cesse Catherine de Sienne, qu'elle avait prise pour modèle. Elle passa les dernières années de sa vie, à soigner des malades. Elle mourut le 24 août 1617 à 31 ans et fut canonisée 54 ans seulement après le 12 août 1671. Elle était donc la première sainte amérindienne. Elle a été nommée patronne du Pérou. La troisième figure vient du Mexique. Il s'agit d'un Indien nommé Cuauhtlatotowac, qui en aztèque signifie « qui parle comme un aigle ». Né en 1474, il prit le jour de son baptême le nom de Juan Diego. Sa femme, baptisée le même jour, prit le nom de Marie-Lucie. Elle mourut 4 ans plus tard. Menant une vie d'ermite, il fut un exemple d'humilité. C'est pour cela que la Vierge le choisit le 4-9 décembre 1531. Alors qu'il se rendait à la messe, il entendit une voix mélodieuse en montant une colline au sommet de laquelle une dame merveilleuse, somptueusement habillée, se présenta comme la Sainte Vierge et lui demanda d'aller voir l'évêque pour qu'on construise une église en bois, en ce lieu. Église destinée au soulagement de tous ceux qui souffrent et qui viendront l'invoquer. Il fut reçu par l'évêque qui, sur le coup, n'en crut pas un mot et lui demanda un signe. Juan Diego retourna sur la colline. La dame lui demanda de cueillir des fleurs en un endroit où il n'y avait guère que des rochers. Il y trouva des roses magnifiques dont il remplit son manteau. Il retourna voir l'évêque qui le fit attendre longtemps. Mais les serviteurs virent qu'il avait quelque chose dans son manteau. Admis devant l'évêque, il ouvrit alors son manteau, les fleurs tombèrent, et à la stupeur générale, l'évêque et ceux qui étaient avec lui, dont plusieurs coadjuteurs, virent sur le manteau de Juan Diego une image de la Vierge comme peinte. L'évêque demanda pardon à la Sainte Vierge pour son incrédulité et fit commencer les travaux. L'image fut transportée jusqu'à l'ermitage et fut honorée sous le nom de Notre-Dame de Guadeloupe. Elle reste depuis plus de 4 siècles, sans aucune marque de vieillissement. En 1921, une charge de dynamite placée dans un vase de fleurs au pied de l'image fit de sérieux dégâts, mais le tableau resta intact. En 1951, des photographes examinèrent les yeux du tableau et découvrirent avec stupeur le portrait de Juan Diego. Nul artiste n'aurait pu faire une telle chose. L'image est toujours visible et attire tous les ans des milliers de pèlerins. En 1737, Notre-Dame de Guadeloupe fut déclarée patronne du Mexique. En 1910, patronne de l'Amérique et en 1935, des Philippines. Le 30 juillet 2002, Juan Diego fut canonisé par Jean-Paul II. Sa fête est fixée au 9 décembre. La quatrième figure vient du Pérou, comme Sainte Rose. Il s'agit de Martin de Porres, 1579-1639. Il est le fils naturel du seigneur Juan de Porres et d'une mulâtresse Ana Velasquez. Lors d'un voyage au Pérou, on m'en a longuement parlé. Son père était barbier à l'époque, cela voulait dire chirurgien. Ce père éleva soigneusement Martin qui entra au couvent de Notre-Dame du Rosaire à Lima. Le seigneur de Porres tenait beaucoup à l'hygiène. Ce n'était pas général à l'époque, mais il était médecin. Et à la propreté des locaux. Martin balayait soigneusement les chambres des malades et des femmes qui venaient d'accoucher, ce qui diminua fortement la mortalité des nourrissons. On le représente en particulier dans les églises sous les traits d'un métis armé d'un balai. Certains l'appellent le saint au balai. C'était un homme d'une extrême bonté avec les malades, jeûnant pour donner aux pauvres, toujours attentif à la moindre poussière. Il mourut le 3 novembre 1639 et fut proclamé bienheureux en 1837 et canonisé en 1962. Armé de son balai, il était proclamé en Espagne patron des éboueurs et de tous ceux qui s'occupent du traitement des déchets, ce qui fut mon cas pendant 30 ans. Reconnaissons que l'on pense rarement à les remercier. Pendant longtemps, cette activité était négligée. Vespasien essayait quelque chose. Au Moyen-Âge, on lâchait des cochons dans la rue pour enlever les plus gros des déchets alimentaires. Certains étaient marqués d'une croix car ils étaient la propriété des moines. C'étaient les cochons de Saint-Antoine. Il fallut attendre le Second Empire et le préfet Eugène Poubelle en 1907 pour organiser le ramassage des récipients dont ils prenaient l'usage. Notons en passant que le métier de ripper, comme on désigne ceux qui vident les poubelles et voyagent pour cela accrochés à la benne de ramassage, est classé dans les métiers à risque car les accidents de travail sont fréquents. Saint Martin des Porres, c'est leur protecteur. Il aide aussi ceux qui ont la charge des usines de traitement, que ce soit du compostage, de l'incinération ou du recyclage, et des ingénieurs qui cherchent à rendre ces procédés plus efficaces, ce que je fis pendant une trentaine d'années. En guise de conclusion, Je citerai saint Paul, qui dans sa première lettre aux Corinthiens rappelle que toutes les parties du corps sont dignes de respect. Je l'ai dit au cours d'une petite causerie à des étudiants, en faisant remarquer que nos cellules avaient des rôles différents mais complémentaires, indispensables les unes envers les autres. On me demanda en souriant à laquelle je me comparais. Je fis remarquer que l'homme le plus sage, le plus savant, était bien utile à tous, mais qu'il était vraiment diminué s'il avait une fistule à l'anus. Ayons le plus grand respect les uns pour les autres. Je termine ici mon laïus de juillet et je vous souhaite un bon été et de bonnes vacances. Ça recommence, je ne sais pas comment le faire. Alors maintenant, c'est épouvantable. Je ne sais pas où il est. Non, c'est pas le Canada. Mais non, c'est pas ça. Moi, le truc a commencé, puis je sais pas ce qui se passe. Tout s'en va.